Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi. Il est très précisément 15h à Kinshasa. Voici votre journal. Deux rebelles ougandais de l'ADF tués et un autre capturé. Bilan d'une nouvelle attaque qu'ils ont menée hier sur la localité de Ngité. Conséquence, les activités sont paralysées ce jeudi pour protester contre le regain de violence dans la région. Début ce jeudi à Bukavu de la campagne pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidats passent en ce moment devant les députés provinciaux pour les convaincre à voter pour eux lundi prochain. Notre invité, c'est le coordonnateur du collectif des mouvements associatifs des jeunes de l'Ituri. Xavier Assani s'interroge sur les sérieux de l'accord qui avait été signé par les groupes armés CODECO, ZAIR, FRI et PIC pour mettre fin aux hostilités alors que les tueries se poursuivent dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masserika, mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Au Nord Kivu, deux rebelles ougandais de l'ADF ont été tués et un autre capturé dans une nouvelle attaque qu'ils ont menée mardi soir à Ngité, localité située à 17 km du centre-ville de Beni. Du coup, les activités sont paralysées aujourd'hui suite à une manifestation des jeunes d'Ngité contre ce regain de violence dans la région. À Beni, Marc Marofimbo.
C'est vers 20h, heure locale, que les ADF ont attaqué le village de Ngité. Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants, à provenance de la région des Sayo, à l'ouest de la ville de Beni, voulaient traverser la route nationale numéro 4 pour se diriger vers le village de Masulukwede. Des militaires congolais et ougandais positionnés à Ngité sont immédiatement intervenus. Des violents affrontements s'en sont suivis. Deux rebelles ont été tués et un autre capturé. Jean-Paul Ngangundi, l'un des rescapés de cette attaque des ADF à Ngité, salue l'intervention de la force conjointe FRDC ou PDF.
Tout ce que je peux donner comme message, c'est de demander à la population de continuer à soutenir notre armée, à soutenir l'IPDF qui est venu en appui à notre armée, parce que moi, j'ai vu comment ils se sont échangés des coups et il y a eu des résultats. Et donc, nous ne pouvons que les encourager de continuer dans ce sens-là et demander peut-être à l'État congolais de le mettre dans de bonnes conditions, à le doter de tous les moyens nécessaires pour qu'il soit même de travailler pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.
Ce jeudi, pour manifester leur désarroi, des jeunes ont manifesté en érigeant des barricades à Ngité Mavivi. Conséquemment, toutes les activités ont été paralysées dans cette partie de la ville de Beni. L'armée et la police sont intervenues pour rétablir l'ordre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Fin à Bunia de la visite de 3 jours de la délégation des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, des membres de la CPI et du Fonds au profit des victimes. C'est confiant à la presse hier après-midi. Ils ont reconnu que beaucoup de victimes de violences des groupes armés locaux attendent toujours réparation. Ils espèrent que des crimes commis en Ituri ne resteront pas impunis. Les comptes rendus de Jean-Claude Lokidile.
Cette descente sur le terrain avait comme pour but de rencontrer les préoccupations des bénéficiaires du programme de fonds au profit des victimes et palper du doigt les réalisations faites dans le cadre de soutien aux survivants des massacres de civils de 2003. Pierre Dembechambo, le juge de la CPI, énumère certains projets exécutés.
Soutien au logement, deuxième catégorie des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois la formation, mais aussi on aura donné, là où ils les avaient perdus, du bétail. Permettre aux familles d'envoyer leurs enfants dans les écoles et la possibilité de consulter des médecins pour aider à remonter les traumatismes.
Pour le professeur Taylor Lubanga, point focal chargé de suivi de la coopération avec la CPI auprès de la présidence de la République démocratique du Congo, c'est un message fort pour les auteurs des crimes qui se commettent en RDC pour qu'ils sachent que ces actes ne resteront pas impunis.
Tout le sens de cette journée, c'est aussi de dire qu'il n'existe pas de crimes impunis et que les criminels ou ceux qui sont tentés de commettre les crimes ou qui sont tentés de s'associer aux auteurs des crimes. La journée d'aujourd'hui leur a servi, je pense, des leçons.
D'autres programmes de réparation pour les victimes des crimes commis en Ituri dans les affaires Thomas Lubanga et Bosco Taganda sont en cours d'exécution. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et puis, s'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier mercredi à New York, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a dressé un tableau alarmant de la situation qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC, une situation marquée par les tensions persistantes avec le Rwanda. Explication de Jean Gandukabongo.
Le responsable onusien a souligné que cette situation tendue présente un risque d'embrasement régional. Wang Xia a expliqué que les tensions entre la RDC et son voisin le Rwanda non seulement persistent, mais elles se sont également exacerbées avec les affrontements répétés entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'envoyé de l'ONU s'est dit préoccupé par la gravité de la situation, marquée notamment par l'intensification du conflit et la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Il a fait observer que la persistance de la confrontation entre ces deux pays voisins sur fond d'accusations réciproques et des plans de déstabilisation et la flambée des discours de haine augmentaient le risque de l'embrasement régional. M. Xia a noté par ailleurs que les tensions entre le Burundi et le Rwanda, liées étroitement à la situation dans l'est de la RDC, aggravent encore la situation déjà préoccupante et compromettent le progrès significatif enregistré depuis 2020 dans les relations entre ces deux pays.
Merci Jean-Gandou Kabongo pour ces précisions. Et puis, plus de 20 ans après leur déploiement en RDC, les casques bleus pakistanais de l'ONU s'apprêtent à quitter le pays. Ce contingent occupe en termes d'effectifs le premier rang des troupes onusiennes qui ont été déployées dans le sud Kivu. Ils ont mené des opérations militaires visant à protéger la population, maintenir la paix et la sécurité dans la province. Pour en parler, Rachel Kessembangou nous appelle de l'aéroport de Kavumu, situé à une vingtaine de kilomètres de Bukavu.
Effectivement, nous sommes à Kavumu, territoire de Kabare, situé à 32 km de Bukavu. La température est de 21 degrés, le soleil est au rendez-vous, mais accompagné d'un air frais. C'est dans cette ambiance que les casques bleus pakistanais, qui ont servi plus de deux décennies en RDC, organisent cette ultime phase qui annonce leur départ du sol congolais. La cérémonie a été marquée par des discours des autorités congolaises et onusiennes. Il s'agit respectivement du ministre provincial des infrastructures au sud Kivu, représentant du gouverneur intérimaire Sissa Wanumbe et de la chef de la MONUSCO Bintou Keita. Depuis 2003, date de leur premier déploiement, des milliers de casques bleus pakistanais ont servi dans le sud Kivu et 31 parmi eux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en quête de la paix. Pour le Pakistan, ce chiffre représente le plus fort taux de mortalité de son histoire en rapport avec les missions de maintien de la paix. Tout compte fait, à compter d'aujourd'hui, la MONUSCO transfère la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils aux forces des défenses et des sécurités de la RDC qui continueront à assumer cette responsabilité en étroite coordination avec les communautés et les autorités locales. De Kavumu, Rachel Kessé pour Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Coup d'envoi ce jeudi au sud Kivu de la campagne pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. En ce moment, les candidats passent devant les députés provinciaux pour les convaincre à voter pour eux lundi prochain. Pendant ces temps, la police est déployée pour maintenir l'ordre. Dans le même registre au Kasaï central, le bureau de l'Assemblée provinciale a publié hier le calendrier des auditions des candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs. L'exercice durera 3 jours. À Kananga, retrouvons François Kadima Tshisekedi.
Les plénières d'audition se déroulent à partir de ce jeudi jusqu'au samedi. Chaque candidat aura 45 minutes pour convaincre les députés provinciaux appelés à choisir les prochains gouverneurs du Kasaï central et son vice. Dans la course, le retrouve 9 challengers, dont 4 femmes. Pour les auditions de ce jeudi, 3 candidates en lice. C'est notamment Annie Balaï, Astrid Madia et Lisette Sangana. Pour le vendredi, John Kabeyaki, candidat à sa propre succession à la tête de la province, se présentera devant les députés provinciaux. Denise Dissochoa et 7 autres candidates femmes alignées ce jour. Le 3e sur la liste est Jean-Marie Nyengele. Pour le 3e et dernier jour, les députés provinciaux attendent Dieudonné Likita, Joseph Moïse Kambulu qui est revenu dans la course à la suite d'une décision de la Cour d'appel du Kasaï central après avoir été écarté par la CENI. Le dernier qui va clôturer la série d'auditions, c'est Célestin Sangana. Au niveau de la CENI, l'on souhaite voir ces étapes jusqu'aux élections prévues le lundi prochain se dérouler dans la transparence. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Et puis, le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur demande au Conseil d'État d'ordonner en toute urgence des mesures conservatoires lui permettant d'exercer ses plénières. C'est par une requête en procédure de référé liberté contre une décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur. Cette décision suspend les plénières de cet organe délibérant pour trouble à l'ordre public lors de l'élection de son bureau. Le président de l'Assemblée provinciale a plaidé hier devant le Conseil d'État. Alexis Nkumu Isangola a exposé les faits en cause. L'affaire a été prise en délibéré et la décision du juge est attendue dans 48 heures. Jeff Ngoy.
La décision du vice-premier ministre est contenue dans son message officiel numéro 25 du 2 avril. Ce message interdit toute plénière au sein ou en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Il fait allusion à l'absence de sérénité des élections et installation des membres du bureau définitif qui auraient troublé l'ordre public le 2 avril. Pour le requérant, l'ordre public n'a jamais été troublé. Il estime que la suspension des plénières de l'organe délibérant de l'Équateur est non seulement un excès de pouvoir de la part du vice-premier ministre et la violation du principe sacro-saint de séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, mais aussi et surtout une atteinte grave à la liberté politique dont bénéficie cet organe de tenir ses plénières. En plus, la méconnaissance du droit de chaque député à pouvoir jouir de son droit de vote à la plénière destinée aux élections des gouverneurs et sénateurs le 29 avril prochain. Il plaide ainsi pour que le juge de référé liberté déclare la décision de Peter Kazadi illégale en ce qu'elle violerait les articles 197 de la Constitution et 15 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et par conséquent d'ordonner sa levée et des mesures tendant à la sauvegarde de la liberté de l'Assemblée provinciale.
L'actualité, c'est aussi la commémoration ce 25 avril 2024 de la Journée internationale de la lutte contre le paludisme. Dans la province du Kwilu, cette journée est célébrée à Bandundu-Ville par la division provinciale de la santé publique. Une caravane motorisée est organisée sur les principales artères de la ville pour sensibiliser la population à la prévention. Au Maniema, par contre, le coordonnateur de la maison de l'Artemisia invite les habitants à consommer l'Artemisia, une tisane déjà approuvée par l'Organisation mondiale de la santé pour faire face au paludisme. Amissi Abdallah est au micro de Florence Kizalunga.
Nous, comme maison de l'Artemisia Maniema, nous sommes en train de sensibiliser la population à consommer l'Artemisia pour lutter contre le paludisme, la bilharziose ainsi que beaucoup d'autres maladies. Et nous donnons un message à la population de Kindu en particulier et du Maniema en général de consommer l'Artemisia parce que c'est déjà approuvé par l'OMS. Le monde entier consomme déjà l'Artemisia et quiconque prendra notre tisane gratuitement ne sera jamais attrapé par le paludisme. Le thème que nous avons, c'est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. En tout cas, je suis en train de donner un message à la population que vous pouvez venir à la maison de l'Artemisia et vous aurez gratuitement la tisane et nous-mêmes nous saurons comment vous prendre en charge du débit de votre dépistage jusqu'à la guérison. Ça, c'est le message que nous donnons à la population de Kindu et au Maniema en général.
Actualité internationale.
À Nairobi, des fortes inondations ont fait 38 morts hier après-midi, selon un premier bilan de la Croix-Rouge kényane. Près de 30 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Ces fortes précipitations sont dues à El Niño, un phénomène climatique venu de l'océan Pacifique qui apparaît tous les 6 ou 7 ans. Les inondations ont surtout touché hier après-midi l'est du Kenya, mais aussi Nairobi, la capitale. Et puis au Mali, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement devient le cadre stratégique pour la défense du peuple de la Zawad. Il sera dirigé par le chef du mouvement national pour la libération de la Zawad, un groupe armé du Nord membre de cette coalition. Ce changement de nom correspond également à une redéfinition des objectifs.
L'invité. Notre invité, c'est le coordonnateur du collectif des mouvements associatifs des jeunes d'Ituri. Xavier Hassani fait remarquer que l'opinion s'interroge sur les sérieux de l'accord qui avait été signé par les groupes armés CODECO, Zaïre, FRPI, FPIC pour mettre fin aux hostilités alors que les tueries se poursuivent dans les territoires de Djougou et d'Iromou. Il s'entretient à ces sujets avec Martial Kizabiamungu.
Xavier Hassani, bonjour.
Bonjour Martial.
Pourquoi le collectif des mouvements associatifs de jeunes ituriens reste sceptique après la signature vendredi d'un acte d'engagement de la cessation des hostilités par les groupes armés devant les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba ici à Bounia?
Martial, vous le savez, c'est pas la première fois que le groupe armé puisse s'engager autour de la cessation des hostilités. Nous restons un peu sceptiques par rapport aux résultats des engagements précédemment avec ces mêmes groupes armés, engagement qui ne nous a pas aidé à atteindre les objectifs en termes de retour de la paix, parce que avant la récente signature d'un acte d'engagement, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à ce qui concerne la paix. On a Nairobi, on a les actes d'engagement unilatéral signés au gouvernorat, on a Arou, et aujourd'hui c'est la quatrième signature d'un acte d'engagement. Partant des résultats des trois premiers actes d'engagement pris, nous sommes rester vraiment sceptique par rapport au nouveau engagement que ces groupes armés viennent de prendre, d'autant plus que tous les trois autres n'ont pas permis à ceux qui respectent les engagements qu'ils ont pris de cesser les faits et d'observer en attendant le désarmement et la réintégration dans leur vie civile.
Alors, ces groupes armés ont quand même rencontré les chefs de l'État en personne, n'est-ce pas un signe de détermination du gouvernement pour rétablir la paix durable en Ituri?
Effectivement, nous sommes en train de louer cette volonté du gouvernement qui ne cesse de fournir l'effort pour nous ramener ce qui nous a manqué depuis longtemps, la paix. Mais il se pose un problème, parce que je vous ai démontré ici que ces gens ne sont pas à leur premier engagement. Il se démontre qu'il y a un problème de la volonté dans les cas adverses, c'est-à-dire dans les cas des groupes armés. Le gouvernement, étant responsable de la sécurité, est en train de mettre en place des stratégies que nous encourageons. Parce que la guerre, il faut l'affronter surtout dans toutes les approches. Et aujourd'hui, nous disons, ils sont allés raconter les chefs de l'État. On suppose qu'ils ont déposé ce qui les a poussés à prendre les armes, ce qui les motive à massacrer la population. J'espère qu'ils ont eu le temps de parler avec les garas de la nation. Et nous pensons qu'après ces actes d'engagement, ça va pas encore être une façon pour eux de diper ou d'endormir le gouvernement et la communauté internationale.
Alors, les collectifs des mouvements associatifs de jeunes ituriens craignent quoi?
Nous craignons à ce que cette nouvelle signature d'actes d'engagement soit une manière pour ces groupes armés d'endormir et de distraire le gouvernement et en fait et la communauté internationale et continuer à faire calmement leur bêtise de massacrer la population civile.
Quelles sont vos recommandations, gouvernement, pour une paix durable dans cette province meurtrie depuis 2017?
Nous, en tant que collectif, on voulait proposer au gouvernement cette fois-ci, après engagement de ces groupes armés, pendant cette période d'accalmie où ils sont en train d'attendre l'issue des engagements qu'ils ont pris, de commencer à identifier les éléments au sein de ces groupes armés, que ça soit CODECO, FPIC, FRPI, Zaïre, MAPI, etc., pour essayer de dénicher les volontaires. Parce que le gouvernement vient de créer un corps de volontaires qui veulent défendre la patrie. Parmi ces groupes armés, il y a ceux qui se réclament de gens qui sont en train de lutter contre la balkanisation. Eh bien, la balkanisation, c'est à Goma. L'agresseur est à Goma. Qu'on identifie les éléments aussi de ces groupes armés qui vont vouloir servir comme des volontaires, qu'on les amène là-bas, qu'on désarme ceux qui ne vont pas vouloir continuer ou bien servir comme des volontaires, qu'on frappe tous les réfractaires à ces nouveaux engagements qu'ils viennent de prendre.
Alors vous, comme association de jeunes, quelle est votre contribution pour les retours de la paix en Ituri?
Comme association, je pense que nous allons rester dans la sensibilisation, parce que c'est la seule arme que nous avons pour conscientiser nos frères qui ont pris les armes, ceux qui veulent continuer à servir comme des militaires, de pouvoir aller réintégrer les VDP, parce que il faut se le dire que depuis un moment, le gouvernement a refusé l'intégration des groupes armés. Mais il a quand même ouvert une brèche pour ceux qui veulent servir le pays, sous cette casquette, d'aller appuyer les opérations militaires.
Les réservistes de FRDC.
Effectivement. Alors, nous passons comme association, nous allons continuer à conscientiser, à sensibiliser ceux qui sont là-bas et d'aller rejoindre les amis qui défendent la patrie vers Goma et ceux qui vont vouloir rentrer dans la vie civile de déposer les armes.
Xavier Hassani, merci.
Merci à vous également, merci à la Radio Cap.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du collectif des mouvements associatifs de jeunes de la province de l'Ituri. Xavier Assani a été interviewé par Martial Kizabiamungu. Il est 15h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal coordonné par Blaise Shindani Kambala sous la supervision éditoriale de Martin Sabou Djangwe.